Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, ce rendez-vous économique annuel de Financial Times à Londres, en Grande-Bretagne, thème « Investir en Afrique ». Présent sur place, le président Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président de la CEAC et de la SADC, est revenu sur les enjeux et les défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence. Au moins 16 séismes, pour la plupart non ressentis, ont été enregistrés récemment dans le champ des volcans Nyiragongo et Nyamulagira au nord Kivu. Pas de panique, ces volcans sont dans leur activité normale, rassure le directeur scientifique de l'OVG. Et puis, l'invité de ce soir, Rigen Bangaï, président du Parlement d'enfants de la région de Butembo-Lubero. Il décrit la situation actuelle des enfants dans cette partie du Nord Kivu, surtout les difficultés rencontrées par ces enfants pour accéder à l'éducation de base. Madame, messieurs, bonsoir. Ne considérez pas notre faiblesse, mais notre volonté de changement. C'est la déclaration du président de la RDC ce mardi au Africa Summit 2022, le rendez-vous économique annuel des Financial Times à Londres, en Grande-Bretagne, organisé sous le thème « Investir en Afrique ». Le sommet a réuni des délégations de haut niveau de gouvernement, d'entreprises, des décideurs politiques et d'investisseurs. Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est aussi exprimé en sa qualité de président de la CEAC et de la SADC, est revenu sur les enjeux et les défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence. Plus de détails avec Alain Rungmushinj.
Le président de la République a évoqué les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, une façon pour lui de donner des réponses à la thématique retenue à ce sommet. Concernant la présence du M23 à Bounagana, Félix-Antoine Tshisekedi a une fois de plus interpellé la communauté internationale qui tarde à peser de son poids pour régler cette crise sécuritaire. Le chef de l'État congolais a aussi défendu le processus en cours de l'attribution des blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre le dérèglement climatique. La RDC a-t-il soutenu et le pays solution au réchauffement climatique et tient à cette vocation du fait de sa biodiversité et de sa position comme un des poumons du monde. Par contre, ces populations ont le droit, comme cela se passe par exemple au Gabon, en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles tant que les autorités respectent les conditions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle nationale, ne l'interdit.
Rendons-nous au Nord Kivu. L'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, a enregistré au moins 16 séismes tectoniques, pour la plupart non ressentis. C'était entre le 12 et le 16 octobre en cours. Ceci est contenu dans le communiqué des nouvelles d'observation rendu public hier lundi. Selon le directeur scientifique de l'OVG, ces séismes ont été localisés dans le champ des deux volcans, le Nyiragongo et le Nyamulagira. D'après lui, ces mouvements sont causés par le mouvement de magma dans la profondeur des deux volcans. Il rassure tout de même que le niveau d'alerte reste jaune et il n'y a pas d'inquiétude. Célestin Kassere Kamainda explique au micro de Bernardin Nyangi.
Depuis la semaine passée, nous avons enregistré des tremblements de terre ressentis. L'origine était Iju, c'était le 9. Le 11, il y a eu réapparition des lacs de lave dans le cratère de Nyiragongo. Parce que chaque fois quand il y a un mouvement de magma à profondeur, il y a la terre aussi qui bouge. Alors il y a les tremblements de terre qui sont liés à ces mouvements là-bas. Et au niveau de chaque des volcans, nous avons différents types de tremblements de terre. Nous avons des tremblements de terre qui sont liés au magma, que nous appelons longue période. Il y a des tremblements de terre, bien sûr, qui sont liés au mouvement du magma, mais qui percent les fractures, que nous appelons aussi des tremblements de terre volcaniques, mais de type tectonique. La nuit du samedi au dimanche, il y a un autre tremblement de terre qui a été ressenti à Warikal. À ce stade, la population doit se sentir calme, doit vaquer librement ses occupations. Le Nyiragongo et le Nyamulagira sont dans leur activité normale.
Direction l'Ituri, deuxième jour de paralysie des activités socio-économiques dans la commune rurale de Mongwalou, cité minière située à 85 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, les opérateurs économiques protestent contre l'assassinat de 10 commerçants de la communauté Ira sur la route Mongwalou-Dala et Kilo en l'espace d'une semaine. Le bourgmestre de cette commune demande aux commerçants de lever cette mesure de ville morte qui appauvrit, dit-il, davantage la population. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Depuis lundi matin, boutiques, magasins, marchés sont fermés et même les écoles n'ont pas fonctionné. Pour les opérateurs économiques composés essentiellement de membres de la communauté Ira, c'est pour compatir avec les familles des victimes tuées il y a une semaine par des hommes armés. Ils se disent lassés des exactions des groupes armés, notamment les meurtres, enlèvements, pillages et viols. Ils demandent au gouvernement de garantir la sécurité à Mongwalou et sa périphérie pour leur permettre d'évacuer librement à leurs activités économiques. De son côté, le bourgmestre de la commune rurale de Mongwalou exhorte les commerçants à ne pas singulariser les violences des groupes armés à une seule communauté. Jean-Pierre Bikili Sende leur demande d'élever cette mesure des villes mortes dont les conséquences sont graves pour la population déjà paupérisée par la guerre et qui gagne sa vie au quotidien.
Il ne faut pas qu'ils puissent privatiser les deuils de nos compatriotes comme c'est une affaire seulement de l'Iran, c'est une affaire du peuple congolais. Les activités doivent reprendre, même si en famille nous pouvons continuer à organiser nos prières.
Signalons que la durée de cette mesure de ville morte n'a pas été précisée par les commerçants dont les maisons de commerce restent fermées. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, de nombreuses voix s'élèvent dans le territoire de Djougou pour réclamer le redéploiement et le renforcement de l'effectif des casques bleus dans plusieurs villages, cela pour accompagner le retour des déplacés dans leur milieu d'origine et permettre la relance des activités agricoles et même économiques. Selon des sources concordantes, les menaces des groupes armés persistent encore dans la région car les miliciens n'ont pas encore déposé les armes. Isaac Remoyope nous fait le point.
La présence des casques bleus est indispensable dans les territoires des Djougou pour la protection des civils, affirment des sources concordantes. Pour les acteurs de la société civile et les comités de déplacés, les casques bleus doivent d'abord maintenir leurs anciennes bases, notamment à Jina, Boule et Djaïba, jusqu'au rétablissement total de la paix dans ces territoires. Mais aussi, les forces de la MONUSCO doivent se redéployer ailleurs, notamment au village de Calvert, Ndrili et Yudei, situés aux alentours de la mission catholique de Fataki. C'est pour encourager les retours de la population et la reprise des activités champêtres économiques et même scolaires qui tournent au ralenti depuis la calmie observée il y a environ 3 mois dans la zone. Un déplacé lance un SOS.
Quand nous avons une force même dès aujourd'hui, comme MONUSCO là, installée déjà dans notre milieu, nous sommes censés de retourner au moment même.
À Boulé, sa périphérie qui héberge 80 000 déplacés, sans compter les habitants, il y a nécessité de renforcer également l'effectif des casques bleus. Leur position doit être rapprochée des sites, indiquent les responsables du site Emmanuel Ndalo.
Nous avons déjà plusieurs fois plaidé la base de MONUSCO soit nommée ici à Boulé, même sur un kilomètre proche du cas des déplacés, parce que le cas des déplacés sont les cibles des attaques de ce côté.
De son côté, la MONUSCO qui affirme qu'elle ne peut être partout à la fois du fait de ses effectifs limités, va continuer à protéger les populations civile des retours des Djougou. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, la MONUSCO annonce pour bientôt la fermeture de sa base du contingent indonésien dans le territoire de Shabunda au sud Kivu. Une équipe conjointe MONUSCO-gouvernement provincial a annoncé la nouvelle hier devant la communauté locale. Une annonce qui ne satisfait pas la population, qui évoque plusieurs bienfaits de la mission onusienne dans leur entité. Jean Kassami pour le reportage.
Les contingents indonésiens commencent à quitter Shabunda d'ici là avec comme destination Bounia au nord Kivu. Le départ du contingent indonésien plonge la population de Shabunda dans une angoisse au regard des exploits que ce contingent y a réalisés. Sur le plan sécuritaire, la population évoque l'affaiblissement des groupes armés suite à la présence des casques bleus de la MONUSCO. Le président du conseil de sécurité, l'AT Ferouzi Bimpa Benjamin.
Pour ce qui est de la sécurité, nous déplorons le départ de la MONUSCO. La MONUSCO était là juste pour essayer de nous amener des informations par-ci par-là. Et grâce aux informations de la MONUSCO, les FRDC en tout cas s'est déployé par-ci par-là. Et aujourd'hui, nous respirons, sauf un phénomène coupé de route. Mais pour le reste, en tout cas, la sécurité est au bon fixe.
La communauté locale regrette aussi le départ de la MONUSCO avant la mise en œuvre du projet de réhabilitation du tronçon de la route Matili-Chabunda long de 16 km. La MONUSCO rassure que tout projet déjà inscrit à son agenda ne sera pas complètement abandonné entre les seules mains de la population de Chabunda. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, signalant la clôture ce mardi à Mbujimayi de l'atelier sur les instruments juridiques de lutte contre les violences sexuelles et outils de collecte de données sur les violences sexuelles. Cet atelier de renforcement des capacités de 2 jours est organisé par le Fonds pour la femme congolaise, FFC. Il réunit une 30aine de femmes venues des provinces du Kasaï Oriental, du Kasaï Central et du Kasaï. D'après Maître Marthe Ndaya, facilitatrice de cet atelier, le but est de pousser les femmes à briser le silence pour une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles. Maître Marthe Ndaya s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
L'objectif est que les femmes sachent qu'il y a des documents, qu'il y a des instruments juridiques qui les protègent, tant au niveau national qu'au niveau international, et qu'elles-mêmes soient au centre de l'action, puisque nous avons beaucoup de statistiques selon lesquelles les femmes sont victimes parce qu'elles n'ont pas la connaissance des différents documents ou instruments juridiques qui les protègent. Ce sont des outils pour la meilleure prise en charge des victimes qui sont répertoriées dans une communauté ou par une structure. Après cette atelier de renforcement, les femmes vont mener différentes séances de sensibilisation dans leurs communautés respectives afin de ramener les femmes à briser le silence et à dénoncer tout cas qui se perpètre dans leurs communautés respectives afin que la meilleure prise en charge soit effective. Les mamans doivent connaître et savoir comment documenter les différents cas qu'elles rencontrent dans leurs communautés respectives.
Au Maniema, signalant la clôture hier à Kindu de la campagne des consultations gratuites des enfants de 0 à 5 ans présentant des pieds bots et des cicatrices rétractiles, c'était au centre médico-chirurgical Kitumaini. 85 enfants présentant diverses malformations ont été consultés avec 33 interventions chirurgicales, cela grâce au financement de Salomon Idi Kalonda de la dynamique Escadela. Le médecin chirurgien s'est dit satisfait de la réussite de cette opération, surtout celle des cicatrices rétractiles fréquentes dans le Maniema. Florence Kiza pour le reportage.
Devenu handicapé à l'âge de 5 ans à sa main gauche suite aux brûlures, Mango Fatouma, âgée de 13 ans, a été opérée avec succès. Elle remercie ses bienfaiteurs.
J'étais brûlée à l'âge de 5 ans. J'étais devenue handicapée. Objet de moquerie à tout le monde. Aujourd'hui, ma main est redressée. Merci à Docteur Flora et à Papa Salomon.
Mango Mabruki, son père, n'en croyait pas. Il témoigne.
Elle a été brûlée à l'âge de 5 ans. Mais aujourd'hui, elle a été opérée par le docteur Florent Choma. Moi-même, je ne le croyais pas. Je suis dans la joie aujourd'hui, voir la main de ma fillette est redressée.
Satisfait, docteur Abeli Choma Florent plaide pour les autres enfants.
En tout cas, c'est pour la première fois que cette intervention soit pratiquée à Kindu. Ça a été une réussite. Donc, elle n'était pas la seule à avoir des lésions de brûlure. Nous avons opéré 4 autres cicatrices rétractiles et toutes les patients ont évolué correctement. De nombreux ne savaient pas que cela pouvait être réalisé à Kindu, mais avec l'expertise locale, nous avons des spécialistes dans notre organisation et nous pouvons les soigner correctement.
Pour certains patients opérés, le suivi va aller jusqu'à 3 mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
7 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe globale destinée à financer le plan de travail de l'UNICEF en 2022 et 2023 dans les provinces de la Tchopo et du Bahouélé. C'est ce qui ressort de l'entretien que la gouverneure de la Tchopo a eu hier lundi avec le chef du bureau de l'UNICEF, Kisangani. Mokhtar Han est allé à la rencontre de l'autorité provinciale afin de lui présenter ses civilités pour la première fois depuis sa proclamation par le Conseil d'État en mai dernier en tant que gouverneur élu de la Tchopo. Le point avec Jacques Moukonkole.
au cabinet de l'autorité provinciale, Mokhtar Khan, nouveau chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, se fait accompagner du chef de division provinciale du plan, Norbert Musunga. Une occasion pour le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani de présenter à l'exécutif provincial le plan de travail de son agence ainsi que le budget y afférent. Les activités, a-t-il souligné, tournent essentiellement autour de l'éducation, la santé, la protection de l'enfant.
L'appui aux salles de classe, l'appui à l'éducation, l'appui aux hôpitaux, ici au niveau de la Tchopo, tout ce que nous faisons en termes de vaccination que nous avons investi dans la lutte contre la COVID-19, la vaccination contre la polio, méningite, ce sont nos domaines prioritaires. On voit exactement ce que nous sommes en train de faire en appui aux efforts qui sont déployés par les autorités provinciales, les ONG et les autres agences du système des Nations Unies.
L'occasion faisant le larron, Mokhtar Khan a remercié Madame le gouverneur pour l'octroi d'un terrain à l'UNICEF en vue de la construction de ses propres bureaux. Le début des travaux est prévu pour janvier 2023. Tout est quasiment prêt, a précisé le chef de bureau de l'UNICEF. Pour sa part, Madeleine Nikomba se dit satisfaite du travail de l'UNICEF qui investit énormément pour le bonheur des enfants de la Tchopo et proclame sa disponibilité à l'accompagner dans toutes ses activités. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Le ministre malgache des Affaires étrangères vient d'être limogé par le président de la République de Madagascar. Il est reproché à Richard Andriamandrato d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de la résolution condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine. Madagascar ayant jusqu'alors toujours marqué sa neutralité en s'abstenant lors des votes précédents. De son côté, le ministre incriminé confirme l'information et ajoute avoir pris cette décision en âme et conscience. Par ailleurs, soupçonné d'entretenir des liens avec des entités proches du Kremlin, le chef de l'agence allemande de cybersécurité a été démis de ses fonctions. Entre-temps, sur le terrain, des nouvelles frappes russes ont touché des infrastructures énergétiques dans plusieurs villes de l'Ukraine, dont la capitale Kiev. Plus d'un millier de localités restent privées d'électricité, selon les autorités ukrainiennes.
L'invité.
Comme annoncé, ce soir, nous recevons le président du Parlement d'enfants de la région de Butembo et Lubero, au Nord Kivu. Il nous décrit la situation actuelle des enfants dans cette partie de la province, sous menace des activismes des groupes armés et surtout les difficultés que connaissent ces enfants d'accéder à l'éducation de base. Rigen Bangaï s'entretient à ce sujet avec Marc Marofimbo.
Monsieur Rigen Bangaï, bonjour.
Bonjour, merci.
Quel état des lieux faites-vous actuellement de la situation des enfants dans la région de Butembo et Lubero?
Dans la région que le Parlement d'enfants Butembo-Lubero dirige au niveau de la ville de Butembo et du territoire de Lubero, la situation des enfants reste pertinente et elle doit de plus en plus attirer l'attention de tout le monde, que ce soit des humanitaires, que ce soit des autorités du pays, pour que les enfants qui vivent dans des conditions tellement difficiles puissent se retrouver et avoir au moins un appui de la part de différentes parties, particulièrement pour cette période où les enfants sont butés aux problèmes d'ordre scolaire. Ils ont du mal à accéder si facilement à l'éducation suite à l'absence de plusieurs écoles pour accueillir les enfants de placés qui viennent de toutes les zones de Beni, ville et Beni territoire. Il y a plusieurs écoles qui sont à Butembo, qui sont dans les Lubero, qui ont du mal à accueillir les enfants par manque de place, par manque des objets classiques pour rentrer les enfants. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a plus de centaines d'enfants qui sont dans la ville de Butembo, qui sont dans les territoires de Lubero, qui n'étudient pas juste par manque de place. Il y a d'autres qui, par manque de fournitures scolaires, ont du mal à aller à l'école, soit ont du mal à bien étudier. Mais néanmoins, il y a certaines écoles également qui, dans les territoires de Lubero, jusqu'aujourd'hui, depuis la rentrée scolaire, voici presque un mois et demi, mais les écoles n'ont jamais repris, faute des sécurités qui rongent cette région. Donc, si les autorités peuvent vraiment nous aider et concentrer les efforts dans ces zones pour sécuriser les écoles, pour sécuriser les différents milieux, pour que les droits à l'éducation soient pour tous les enfants congolais, tel que dit dans la loi portant protection de l'enfant. Mais avec les vagues d'enfants de placés, la ville de Butembo, les taux d'enfants qui sont non accompagnés a augmenté suite à ces mouvements de déplacés des populations et des différentes familles où les enfants se trouvent dans la ville et ils ont du mal à s'orienter et ne savent plus où aller. Et le besoin qui est à ce niveau, ce sont des centres pour accueillir ces enfants, car il y a vraiment insuffisance des maisons d'accueil pour les enfants non accompagnés, d'où une recommandation au gouvernement et aux partenaires de voir, dans la mesure du possible, créer des centres qui accueillent les enfants non accompagnés, qui se retrouvent d'ici et là pour les épargner de beaucoup de dangers, notamment la justice populaire auquel ces enfants peuvent faire face lorsqu'ils cherchent à s'orienter dans la communauté ou dans la population.
Et est-ce que vous avez déjà fait un état des lieux général de leur lieu de provenance pour cette fois-ci occuper Butembo et même Lubero?
Effectivement, les enfants viennent de partout, de tout le coin, particulièrement de là où il y a la guerre qui menace, qui dérange. C'est là généralement que viennent beaucoup d'enfants. Peut-être qu'ils sont accompagnés d'une famille, mais arrivés en ville, ils vont se disperser et il y a une difficulté où personne ne veut recevoir ses enfants. Tout le monde a du mal à approcher cet enfant, à l'écouter ou même à le recevoir. Ça fait que il y a des enfants qui passent nuit vraiment dehors. C'est un enfant orphelin, c'est un enfant déplacé, mais il n'est accueilli par personne et il continue à souffrir lui seul avec beaucoup de difficultés.
Et à votre niveau, parlement d'enfants, il y a déjà des efforts fournis afin que quand même la situation soit décatée?
Effectivement, ce que fait le parlement d'enfants, c'est d'abord le plaidoyer, chercher à sensibiliser au moins toute la couche de la population, à commencer par la communauté elle-même qui est la base, qui généralement reçoit ses enfants, de ne pas tonner directement sur ses enfants, d'être attentif par rapport à ce que va dire l'enfant, que de chercher à stigmatiser l'enfant, mais également les autorités locales qui doivent être premiers à porter secours à ces enfants, notamment les chefs de quartier, les chefs de cellules, les chefs de communes également. Ils doivent être beaucoup plus attentionnés à de telles situations et approcher les enfants ou même aller vers ces enfants et les amener avec eux que d'avoir toujours peur de nos frères qui viennent de territoire de Béni. On pense que ces enfants, peut-être, ils sont des adeptes, puis que peut-être ils viennent de là où il y a des adeptes. Et ça crée des stigmatisations pour ces enfants. Et ça fait qu'ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Et ce que fait aussi le Parlement, c'est de mener de plaidoyer pour qu'un enfant qui a été retrouvé dans la rue, qu'il passe au moins une nuit quelque part dans une famille et que sa sécurité soit garantie afin que demain ou après-demain, il puisse retrouver sa famille.
Regan Banga, et nous vous disons merci.
Merci également.
Le président du Parlement d'enfants de la région de Butembo et Lubero répondait aux questions de Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.